Nature en équilibre, le podcast qui t'encourage à faire la paix avec ton corps et vivre la vie qui t'inspire. Je m'appelle Elisabeth, je suis coach de vie certifiée et naturopathe. Ma mission est de te donner des ressources pour que tu reprennes les rênes de ta santé et de ta vie. Avec ou sans invité, je partagerai avec toi des prises de conscience, des notions et des outils qui vont te faire changer de perception et trouver ton équilibre. On se retrouve ici même les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Si parfois tu ne te sens pas à la hauteur ou pas légitime, si tu culpabilises de ne pas faire assez, si la voix de ta critique intérieure prend trop de place et mine ta santé mentale, ta réussite, ton leadership ou ton épanouissement, alors cet épisode est pour toi. Dans cet épisode, nous allons explorer d'où viennent toutes les voix limitantes qui hantent ton cerveau. Nous allons découvrir en quoi elles ont pu être utiles à un moment donné de notre vie, mais quelles en sont leurs limites aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps, dans notre système nerveux, quand on écoute trop ces voix, quand elles prennent trop de place? Et finalement, quels sont les moyens pour baisser leur volume et enfin entendre cette voix de nous complet, complète, à sa place, où toutes les parties de nous sont unifiées? Et à la fin de cet épisode, je t'ai préparé un petit cadeau bonus. Alors comme d'habitude, on commence par un accord entre nous. Je vais partager ici le fruit de mes recherches, de mes expériences personnelles, de mes discussions endiablées avec mes chers collègues et de moments émouvants et intenses avec mes clients et clientes. Je te propose donc ma vision du sujet et non la vérité absolue. Prends ce qui te parle et jette ce qui ne résonne pas avec toi. Allez, c'est parti. Ces multiples voix de l'autocritique se présentent comme si elles étaient des autorités supérieures venant nous juger. Elles semblent tout connaître de nous, connaître l'avenir, et nous condamnent à vivre dans un monde étriqué, sinistre, et dans lequel on n'en verra même pas notre pire ennemi. Enfin, presque, ça dépend. Alors que quand il s'agit de créer quelque chose de nouveau, de changer ses habitudes de vie et se mettre en priorité, de sortir de sa zone de confort ou d'aller au bout de son ambition, je crois que ces voix sont les plus grands obstacles à la réussite de chacune et de chacun. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce qu'est la réussite. Et oui, la définition de la réussite est propre à chacun. L'image mentale que tu lui donnes, les émotions projetées que tu lui attribues et les attentes, surtout, que tu lui associes, te sont propres et personnelles. Et si tu sondes autour de toi, tu t'apercevras que c'est comme le bonheur, chacun a sa définition. C'est donc important que tu choisisses et précises ta définition. Sans ça, comment savoir si tu réussis ou échoues? C'est un peu comme un voyage. Si tu connais pas la destination, tu risques de passer ta vie avec un sac sur le dos. Tu me diras, c'est un style de vie qui peut plaire aussi. T'est-il déjà arrivé d'avoir un objectif, un rêve tellement grand que l'idée même de le réaliser te donne le vertige? T'est-il déjà arrivé de devoir apporter un changement significatif dans ta vie qui provoque une tension dans ton corps, au point de rentrer en résistance? Cela peut être changer son alimentation, prendre du temps pour soi, prospecter pour son business, partir vivre à l'étranger, quitter un job pour te lancer dans l'entrepreneuriat, ou fermer ton entreprise pour aller vers quelque chose qui a plus de sens pour toi aujourd'hui. Je suis à peu près sûre qu'au moment où la pensée s'est matérialisée dans ta tête, un scénario catastrophe, dramatique, a commencé à se dérouler simultanément. Et petit à petit, il a commencé à miner ton objectif avec des doutes. Tu sais, toutes ces stratégies inconscientes qui se déclenchent, l'évitement, les excuses, ou le sentiment de sécurité dans la sédentarité, d'une situation désagréable, mais qui est connue. Why would someone do that? Des études et des recherches suggèrent que le cerveau humain a tendance à préférer des situations toxiques mais familières aux situations inconnues, même si elles pourraient potentiellement être bénéfiques. Cette préférence pour la familiarité est liée à la perception du risque. Et comme notre cerveau a évolué jusqu'à présent dans le but de minimiser le risque pour notre survie, et oui, sur l'échelle d'une histoire humaine, cela fait peu de temps qu'on ne craint plus de se faire bouffer par un tigre à dents de sabre, d'où l'appréhension viscérale de l'inconnu. Et voici le premier obstacle, et non des moindres, puisqu'il fait partie de nos défenses naturelles ancestrales. Et pour sortir de notre trou, on a besoin de parvenir à baisser le volume des doutes, pour faire entendre cette part de soi qui veut aller au bout de ce projet ambitieux. Certaines études montrent que l'autocritique à outrance est une cause majeure du développement de troubles psychologiques, comme la dépression, l'anxiété, les addictions ou les troubles du comportement alimentaire.
And depression is your body saying, "F*** you, I don't want to be this character anymore. I don't want to hold up this avatar that you've created in the world. It's too much for me."
Et mesdames et messieurs, je vous présente les paroles de Jim Carrey. Avec ce célèbre speech sur la dépression. Et si tu ne le connais pas ou que tu ne parles pas anglais, je te propose une petite traduction. La dépression, c'est ton corps qui te dit « fuck you ». Je ne veux plus être cette personne, je ne veux plus jouer le rôle de cet avatar que tu as créé dans un monde qui est trop grand pour moi. Ces voix nous font nous sentir pas à notre place, pas adéquate, pas légitime, pas assez. L'autocritique, tonitruante, anéantit l'enthousiasme du nouveau projet en ouvrant les portes à des scénarios de vie dramatiques. Résultat des courses, on perd toute confiance en notre potentiel. Et le hic, c'est que ces scénarios dramatiques sont basés sur des suppositions, issues des expériences et ressentis passés. Mais ils déclenchent un réflexe d'évitement, une peur de la confrontation. Et on est en plein dans une vision de nous et de la vie filtrée par nos biais de négativité et de confirmation. Ces biais sont des tendances cognitives, naturelles, présentes dans le fonctionnement du cerveau humain. Elles sont le résultat de mécanismes psychologiques qui ont aidé les individus à prendre des décisions rapides dans des environnements complexes. Le biais de confirmation est présent quand on préfère croire des choses qui confirment ce que l'on pense déjà, et on ignore ou on ne prend pas autant en compte les choses qui pourraient dire le contraire. Le biais de négativité, lui, donne plus d'importance et réagit plus fortement aux choses négatives par rapport aux positives. C'est une sorte de loupe qui te met en évidence tout ce qui est négatif et omet tout ce qui pourrait potentiellement être positif. En gros, il t'arrive deux trucs particulièrement chiants dans la journée, un retour client négatif, une prise de bec avec un ou une amie, et tu te couches avec l'impression d'avoir passé une journée de merde, oubliant les 10 trucs cool qui se sont passés, comme le sourire d'un inconnu, un beau paysage ou la blague de Pascal.
With all due respect, what the fuck are you talking about?
Et parmi les conséquences que je retrouve le plus, il y en a 5 que je pourrais placer sur un podium. La première serait de ne pas se sentir à sa place dans sa vie professionnelle, sa vie de couple, ou même dans son rôle de parent. En deuxième, ne pas avoir confiance en soi, ce qui limite ses propres choix à ce qu'on se croit capable de faire, alors que 99,9% du temps, on est très loin de ce qui est vrai. En troisième position arrive l'anxiété, qui est comme un étau qui nous presse et nous étouffe. On imagine facilement le combat intérieur entre un rêve, une peur, l'excitation et les limitations. En quatrième position, on joue petit. On ne prend pas sa place, on ne prend pas de risque. Au prix qu'un jour, on se réveille en ayant cette terrible sensation qu'on est passé à côté de sa vie. Bonnie Ware, une infirmière australienne qui a travaillé durant plusieurs années en soins palliatifs, a partagé dans son livre le plus grand regret des personnes en fin de vie. Dans celui-ci, j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. Et enfin, en cinquième position, mais pas la moindre, le burn-out. Et là, je voudrais dire un petit mot sur le burn-out. On pense souvent que le burn-out est lié à une surcharge de travail. Je ne partage pas cet avis. Je suis convaincue, pour l'avoir vécu plus d'une fois, que le burn-out est la conséquence d'une critique intérieure qui te pousse à toujours faire plus, de ne pas se sentir assez ni à sa place. Il s'installe quand l'espace entre ce qu'on pense de soi aujourd'hui est trop grand par rapport à ce qu'on aimerait être.
Oh yes, I'm the great pretender.
Alors tout à l'heure, je te parlais de cette autorité supérieure qui nous juge et connaît notre futur. Eh bien, c'est de là qu'elles proviennent, de notre enfance. Que notre autorité supérieure, nos parents, professeurs, éducateurs nous ont jugés, blessés, critiqués, poussés un peu trop fort. Et en réalité, ils ont projeté une image d'eux, de leur manque, de leur propre autocritique sur nous. Et c'est principalement le cas quand on a grandi dans un mode éducatif autoritaire, contrôlant et marqué par la rigidité, que ce soit à la maison ou à l'école ou ailleurs. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de rejeter la faute sur un tiers, mais de comprendre ce qui se joue en nous et d'où ça vient pour que ça ne nous définisse plus. Reprendre nos responsabilités et choisir d'agir à partir de là. Quand ces voix viennent d'une autorité supérieure, encore plus s'il y a une relation de dépendance comme parent-enfant, elles deviennent la réalité. L'enfant ne remet pas en cause l'autorité des parents sur soi. S'il a raison ou pas, il cesse juste de s'aimer. Il prend toute la responsabilité et se répète ses voix encore et encore. Et à force de répétition, elles se mixent avec leur propre voix. Dans le cerveau, la répétition de ces phrases limitantes crée de nouveaux chemins neuronaux, des schémas de pensée qui seront aussi bien dessinés qu'une piste de ski empruntée 10 000 fois par jour. Il devient alors urgent de trouver d'autres voies et commencer à faire du hors-piste. Et il y a un livre que j'adore et qui exprime bien ce que nous, parents, et nous, enfants de parents, vivons ou avons vécu. Ce livre, c'est « My Kids, My Shadow » de Anthony Martineau. Je te lis un court extrait, traduit en français par mes soins. Acceptez votre enfant avec toutes ses imperceptions a plus à voir avec vous et très peu à voir avec votre enfant. Cela concerne finalement votre acceptation de vos échecs, de vos peurs et de vos faiblesses. Bon nombre des problèmes que les parents ont avec leur enfant proviennent en réalité du malheur des parents avec eux-mêmes. Accepter ces problèmes en vous-même est la seule façon d'accepter les lacunes chez votre enfant. Cela signifie que vous devez apprendre à vous aimer inconditionnellement et croire que vous méritez un tel amour. Et si on faisait une pause pendant 5 secondes? On sort de notre tête et on rentre dans notre corps. Est-ce que tu sens la tension intérieure que ces pensées peuvent créer dans ton corps? Elles nous plongent dans une insécurité permanente. Et cela a un grand impact sur notre système nerveux. Celui-ci est aux premières loges. Son rôle principal est de nous protéger des dangers perçus, nous permettre de rester en sécurité, de se sentir en sécurité. Mais il est aussi le principal acteur qui nous permet d'être en lien avec les autres et avec soi. Et pour faire cela, il scanne en permanence notre environnement pour s'y adapter. Et quand on y ajoute nos voix intérieures incessantes, nos critiques, qui l'assaillent également, notre système nerveux est sursollicité et rentre en hypervigilance. Il va constamment interpréter l'environnement comme dangereux et cherche le moindre détail qui pourrait être menaçant et active une réponse corporelle inconsciente qui, très souvent, nous plonge dans un état d'anxiété. Une boule à la gorge, la cage thoracique qui se serre, la mâchoire qui se crispe, les trapèzes tendus, etc. Ce stress impacte également la chimie de notre corps, générant des inflammations au niveau des tissus du système digestif. La composition de la microbiote change, et avec cela notre tempérament. Notre système immunitaire est impacté. Notre espérance de vie en est un des dommages collatéraux. Nos capacités cognitives souffrent, notre humeur. Le corps souffre et se transforme. On prend ou on perd trop de poids. Notre ventre gonfle, les trapèzes se tendent, l'estomac se noue et la douleur s'installe pour se transformer en douleur chronique. On pense que c'est le gluten, le manque de sommeil, la pression au travail, le stress ou je ne sais quoi. Alors que les causes sont bien plus profondes. Du coup, les probiotiques, les anti-inflammatoires, le régime kétogène ou autres n'auront pas l'effet escompté, tant qu'on ne sera pas allé voir ce qui se passe plus profondément. Le mal-être et l'anxiété du corps vont remonter en pensées négatives qui vont alimenter de nouveau les voies des critiques dirigées vers soi. Sur le long terme, ces critiques et pensées anxiogènes deviennent des filtres à travers lesquels on voit la vie, les autres et soi-même. Et il n'est pas rare de devenir un poil parano et se sentir jugé, prendre personnellement une remarque plutôt neutre, ou interpréter pour soi un silence gênant, percevoir comme une menace une personne qui prend beaucoup de place dans une discussion. Et notre inconscient, qui traite 50 000 fois plus d'informations que le conscient, va aller chercher et amener à la conscience tout ce qui va justifier ses pensées. C'est un thriller dramatique qui se joue en permanence dans nos têtes, digne d'un Seven, une boucle infernale. Alors comment briser la boucle? Existe-t-il un antidote? Et il semblerait que oui. La compassion envers les autres, mais surtout envers soi-même. Les études montrent que les personnes qui réagissent avec compassion face à leurs propres imperfections et revers, plutôt que de se blâmer, connaissent une meilleure santé physique et mentale. De plus, elles semblent mieux se remettre du stress et des défis. Je ne crois pas qu'on abandonne une nouvelle résolution parce qu'on manque de motivation, d'organisation ou de volonté. Je ne crois pas qu'on se démotive d'une période difficile dans nos activités au point de tout remettre en question, ou qu'on se jette sur la malbouffe, Netflix, les réseaux sociaux par manque de discipline. Je pense qu'il y a une combinaison complexe de raisons, et parmi elles, et non des moindres, la façon dont on se parle. Repensons aux voix du début. T'es nul, t'es pas assez, tu ne pourras jamais, blablabla. Imagine que ta ou ton meilleur ami te parle ainsi. Non, imagine que tu lui parles ainsi. Crois-tu qu'il ou elle va changer? Se motiver, s'épanouir, s'aimer? Oser aller vers de nouvelles habitudes? Se dépasser et poser toutes les actions dont il ou elle a besoin pour réussir? On a tous, dans nos vies, subi un, voire plusieurs moments d'humiliation. Est-ce que ça t'a poussé à t'épanouir, te challenger, te dépasser, changer? Probablement pas. Est-ce que tu penses qu'en te parlant comme ça, tu vas te rapprocher de ton modèle de réussite? Comment envisages-tu les prochaines années à ce rythme? La compassion est un des travails le plus impactants que l'on peut faire dans sa vie et dans son business. Ça paraît simple, et pourtant, s'aimer, s'accepter pour ce qu'on est, surtout dans ses faiblesses, ses hontes, ses insuffisances, ses échecs et ses gros moments de doute, n'est pas un chemin facile. Une des voies pourrait être de faire la paix avec ses voix critiques, en comprenant leur rôle, sans leur donner plus de pouvoir que ça. Après tout, si elles sont là, c'est qu'elles ont tenté de nous protéger de la souffrance et de la honte. La honte est le sentiment le plus douloureux que le cerveau cherche à tout prix à éviter, car c'est synonyme de rejet et donc de mort. Et à la base, nous sommes des animaux sociaux. La solitude et les rejets sont synonymes de mort. Notre histoire et notre présence sur cette terre dépendent de cette socialisation. À un moment donné, ces critiques nous ont permis d'être acceptés. Ce qui, dans l'enfance, est la chose la plus importante et la priorité, au prix d'oublier et de nier ce que l'on est vraiment. Alors, on ne va pas non plus jeter l'eau du bain, la baignoire avec le bébé et la salle de bain. Rejeter toute forme d'autocritique serait complètement nuisible à notre réussite et à notre sociabilisation. Mais il y a une forme d'autocritique qui est bénéfique et essentielle. Celle qui permet de reconnaître et d'évaluer nos erreurs, nos échecs, nos points d'amélioration, ainsi que de cultiver l'humilité. Cette autocritique-là ne remet pas tout en cause, ne remet pas son identité ni sa valeur en cause, mais nous amène à apprendre, évoluer et s'améliorer. Alors si on fait un très court résumé de ce qu'on a dit jusqu'à présent, nous avons vu que ces voix étaient des réflexes ancestraux que nous avons tous, mais qu'elles sont aussi une des plus grosses barrières que l'on peut trouver sur notre chemin de vie et de réussite, sur tous nos domaines de vie. Nous avons exploré à quel point elles pouvaient être toxiques et jusqu'où elles pouvaient nous plonger et nous limiter. Nous sommes remontés à la naissance de ces critiques et exploré ses fonctions et sa forme bénéfique. Et je t'ai présenté un antidote. L'empathie. Et c'est avec cela que nous allons finaliser cet épisode et passer à la partie mise en pratique. Chaque pratique que je vais te proposer ici aura comme finalité de prendre de la distance face à ces voix. Ces voix qui ne sont pas ton identité. Ces voix qui ne sont pas qui tu es. Tu n'es pas obligé ni d'argumenter avec elles, ni de les croire. Cette pratique va t'encourager à mettre de la distance et de la compréhension qui te donneront avec le temps l'espace pour développer plus d'empathie envers toi-même. Et avec l'empathie vient la confiance. Alors pour l'aborder ensemble, dès maintenant, je te propose 5 actions simples que tu peux mettre en place dès maintenant. Choisis celle qui te parle le plus et commence à l'appliquer. Sache que le changement viendra par la répétition, l'engagement et la constance. Chaque jour, un petit pas peut t'amener très loin. Tu connais la fable du lièvre et de la tortue. Pour te donner plus de chance, je t'invite à inviter un ou une amie à suivre une ou plusieurs de ces actions avec toi. Faites-le ensemble. Donnez-vous des nouvelles chaque jour. Demandez à votre partenaire comment elle ou il s'est senti, ce que ça a changé pour lui ou pour elle. Avoir un ou une partenaire d'engagement augmente tes chances de réussite et approfondit votre lien. Et si tu n'as pas la possibilité de faire ces actions ou ces exercices là maintenant parce que tu fais autre chose, tu pourras soit revenir à cet épisode de podcast, soit télécharger la fiche récapitulative avec tous les conseils et exercices détaillés gratuitement dans la description de cet épisode. Cette première étape te permet de te détacher de cette voix, d'apporter plus de clarté sur son origine. Je vais te proposer de te demander qui t'a un jour dit ça, d'où vient cette voix, à quelle expérience fait-elle référence, d'où et de quand ça remonte. Fais confiance aux voix et aux visages qui remontent à ta conscience. Ça te permettra de te dire que ça n'a pas besoin de continuer. Mettre de la conscience là-dessus te permettra de te dire et de prendre conscience que ça n'a pas besoin de continuer ainsi, que tu n'as plus besoin de ça pour être validé, te faire ta place, que cette voix, ces mots n'ont plus de raison d'être aujourd'hui. Deuxième action. Donc, on disait que ces pensées ne sont pas qui tu es. Elles ne constituent en rien ton identité, tes capacités ou tes qualités. Alors change les mots que tu te dis. Au lieu de te dire « je suis paresseuse », tu peux reconnaître que ta critique intérieure te juge paresseuse. Une autre façon radicale pour mettre de la distance est une technique que j'affectionne particulièrement. Celle de mettre un nom à cette voix, l'identifier comme étant externe à toi en lui choisissant un nom. Automatiquement, tu te sors de cette équation dramatique et tu peux envisager cette voix sous un nouvel angle pour changer l'histoire petit à petit. Alors tu peux lui donner le nom de ta prof de maths, ta tante, ta voisine ou un personnage fictif. Ne sachant pas d'où pouvaient venir certaines de ces phrases critiques qui tournaient dans ma tête, j'y ai mis le nom de Brie, en l'honneur de Brie van der Kamp dans Desperate Housewives. Le ridicule de la situation a pris la place du sérieux de ces mots, qui ont perdu de leur poids jusqu'à ne plus exister. Le troisième exercice est une étape transformante, qui peut réellement changer ton discours intérieur. Ça s'appuie sur la technique du journaling, une technique très simple et pourtant très puissante, que de nombreux entrepreneurs, performeurs à succès, utilise chaque jour, comme Tim Ferriss, Oprah Winfrey ou Mark Zuckerberg. Je t'invite à commencer par écrire ce qui se passe dans ta tête. Observe ce que tu ressens et écris-le sur papier. Puis essaie d'être le plus objectif possible face à ces mots qui sont sur le papier. Essaie de voir le scénario qui se raconte. En communication non violente, on t'invite souvent à regarder la situation du point de vue d'une caméra. On enlève les émotions. On enlève les interprétations et on regarde les faits. Et tu peux même aller jusqu'à te faire l'avocat du diable et chercher les preuves du contraire. Si tu te dis que tu ne seras pas à la hauteur pour X événement, projet ou rendez-vous, automatiquement tu vas aller chercher les pires fois où tu ne t'es pas senti à la hauteur. Mais tu peux te poser la question, qu'est-ce qui prouve avec une absolue observabilité que tu n'es pas à la hauteur? Qu'est-ce qui prouve que tu ne le seras pas à la hauteur? Et tu peux aller chercher les fois où tu as été à la hauteur, peu importe le domaine de vie. Il s'agit ici de passer d'une certitude à 100% que tu ne seras pas à la hauteur à 90% de certitude. Insuffler le doute dans tes certitudes. À force de faire cet exercice, tu baisseras ton taux de certitude pour avoir plus d'objectivité sur ce qui se passe vraiment. Quatrième point, travaille ta confiance en toi en élargissant ta zone de confort et dis oui à la vie. Nos voix nous titanisent dans une situation qui est certes inconfortable mais connue. En sortir peut déclencher un florilège d'excuses ou de stratégies pour revenir à la situation initiale. Imagine que ta zone de confort est un ballon gonflable. Ta critique intérieure te fait croire qu'en gonflant ce ballon, il va finir par exploser. Sauf que tu ne peux rien atteindre de nouveau, tu ne peux pas grandir et aller vers des changements qui ont du sens pour toi si tu restes figé dans la situation où tu es. La bonne nouvelle, c'est que tu peux élargir cette zone de confiance en t'entraînant dans n'importe quel domaine de ta vie. Cette nouvelle compétence acquise te donnera plus de confiance et d'élan vers les autres domaines de ta vie qui sont plus challengeants à l'heure actuelle. Alors, qu'as-tu envie de faire? Lancer un projet avec des amis, pour une école, une association, prendre une douche froide chaque matin, t'entraîner à courir et te lancer dans un G20 cet été, travailler en mode nomade seul depuis Bali? Et la cinquième, la dernière, et la plus importante de toutes, bon, pas la plus importante, mais à ne pas oublier, s'entourer de personnes qui nous portent. Crée-toi un environnement positif et encourageant. Ton état d'esprit dépend des personnes que tu fréquentes le plus. Alors choisis les relations que tu nourris. Ouvre ton cercle à de nouvelles connexions et primordial pour ta confiance, ton énergie, ta santé, ta vision de toi et de tes projets, de ton avenir et tes chances de réussite. Et on oublie que l'environnement, c'est les personnes que l'on côtoie, mais c'est aussi ce que tu lis, ce que tu entends. Alors nettoie tes réseaux sociaux. Va vers des comptes et des gens qui t'inspirent et t'élèvent. Oublie les aigris de la vie. va écouter des podcasts qui te nourrissent, te font vibrer et t'ouvrent à de nouvelles visions. Écoute des interviews ou lis des livres de personnes qui ont atteint largement la réussite à laquelle tu aspires. Et inspire-toi de leur vision, de leur façon de voir la vie, de se voir sans pour autant les mettre sur un piédestal ou te comparer, seulement dans une posture d'observation et d'apprentissage. Et en fait, je vais en rajouter une sixième qui pour moi est vraiment la plus importante, celle qui va te permettre d'aller plus loin. C'est te faire accompagner. Il est très compliqué de changer des mécanismes dont on a peu ou pas conscience, ou d'avancer dans un chemin quand on manque de clarté. Avoir quelqu'un à ses côtés qui nous accompagne, nous guide, nous voit et nous entend, nous permet d'aller plus loin, plus haut, et surtout d'oser. Être empathique avec soi, changer sa perception de soi, changer son discours intérieur, gagner en confiance et en amour de soi, ça s'apprend, ce n'est pas inné. Et pour finir, je t'ai préparé un bonus gratuit. Une pratique qui me tient à cœur et que je souhaite partager avec toi. Il s'agit d'une courte visualisation de 10 minutes que l'on pourrait aussi appeler Yoga Nidra. Les recherches se font de plus en plus exhaustives sur les effets du Yoga Nidra sur la santé mentale, et à juste titre, c'est un des éléments millénaires les plus puissants que j'ai pu tester. En induisant une relaxation profonde, on fait tomber les barrières du stress, favorisant un calme mental, un sommeil plus récupérateur, le développement de la pleine conscience et de nombreux autres bénéfices. Alors tu peux télécharger cette pratique gratuitement. Le lien d'inscription est dans le descriptif de cet épisode. Et pour garder le lien, tu peux me retrouver dans ma newsletter. J'aime ce moyen de connexion plus intime que les réseaux sociaux. J'y partage des conseils, des prises de conscience, les dessous du podcast et de mon activité, mais aussi des inspirations et des ressources, toujours dans le but que chacun et chacune avance dans leur vie d'entrepreneur, en s'autorisant à être soi, à respecter ses valeurs, se mettre au cœur de son business, en prenant soin de son capital santé. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour ton soutien. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et si le cœur t'en dit de me dire ce que tu en as pensé, tes feedbacks me font grandir. Alors prends soin de toi. Ose de nouvelles choses. Crois en toi et en ta capacité à apprendre et à grandir quoi qu'il arrive. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi. Tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix. Si tu veux en savoir plus, rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux, mon blog et ma newsletter. Les infos sont dans la description de ce podcast. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.